Constance Arminjon, historienne de l'islam contemporain. Je suis maître de conférence à l'École pratique des hautes études. Je suis ici pour vous présenter mon livre sur les droits de l'homme dans l'islam chiite, confluence et lignes de partage. L'idée du livre m'a été inspirée par les sources historiques. J'étudie l'histoire des débats de la pensée islamique contemporaine et j'ai découvert que dans les années 1990, la question des droits de l'homme, et plus exactement celle de l'accord, sozegori en persan, compatibilité entre les droits de l'homme et le droit islamique ou musulman, s'imposait au sein du clergé chiite. Il faut préciser à cet égard que des œuvres substantielles sur cette question de la compatibilité n'ont été composées que par des clercs chiites iraniens et non par des clercs chiites irakiens, libanais, saoudiens ou d'autres pays encore du monde chiite. Précisons d'abord ce qu'il faut entendre par droit musulman ou droit islamique. J'entends ici le droit savant, musulman et chiite en particulier, désigné en arabe par le terme fiqh, en persan fiqh, dont l'étymologie indique qu'il s'agit d'une intelligence ou d'une compréhension. Il me semble, pour rester au plus proche du sens premier du terme, que l'on peut le traduire par droit savant. Surtout quand on aborde les choses d'un point de vue historien, le droit savant chiite n'est pas figé. Il repose cependant sur des principes structurants dans la longue durée qui sont invoqués aujourd'hui encore par tous les protagonistes du débat sur les droits de l'homme. Le premier principe est un principe d'ordre théologique, c'est celui de l'origine révélée de la loi. Précisons d'ailleurs la différence très importante chez les juristes chiites entre la charia, la voie qui est dans la pensée de Dieu et qui est considérée comme inconnaissable, et le droit, le fiqh, qui est lui et l'œuvre des savants religieux chiites. Le deuxième principe du droit savant chiite a été envisagé à partir du Xe siècle. Et ce principe est celui d'une congruence entre la loi révélée et la raison. Selon une sorte d'adage, il y a un accord entre le jugement de la loi révélée, ashar, et celui de la raison, aql. Ce principe, énoncé au Xe siècle, est resté structurant et continue donc d'être invoqué jusqu'à aujourd'hui. Quant à la question, enfin, de la manière dont les juristes chiites eux-mêmes envisagent le dynamisme de leurs droits, eh bien, l'un des plus éminents juristes chiites contemporains, qui est le grand ayatollah Youssef Sanei, qui a une position suprême dans la hiérarchie chiite, celle de marja'e taqlid, c'est-à-dire de source d'imitation, dans un traité récent sur l'ijtihad, soulignait que le droit chiite est par essence dynamique. Il y a d'ailleurs une expression pour cela en persan, c'est le fiqh pouya, donc droit savant dynamique. On peut distinguer plusieurs périodes dans l'histoire du droit de l'État persan et dans celle du droit savant chiite, car il y a donc une interaction entre les savants religieux chiites et les juristes de l'État. Dans le cas de l'Iran, on distingue une première période qui va à peu près du milieu du XIXe siècle jusqu'à la révolution constitutionnelle iranienne de 1906. Et pendant cette période, l'État iranien entreprend principalement de séculariser une partie de la juridiction. J'entends ici par sécularisation l'idée d'un transfert de compétences des savants religieux chiites à l'État, et ceci donc s'est traduit par un dédoublement des juridictions. Il y a eu donc, pour certains domaines du droit, des tribunaux étatiques, ou tribunaux régis par un droit appelé le droit coutumier, urfi en persan, urfi en arabe, et parallèlement un droit savant compétent pour certaines affaires et qui, je dirais, était sanctionné par des tribunaux religieux. Ceci est la principale réforme menée donc par les Qajars dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Un tournant majeur est marqué avec la révolution constitutionnelle de 1906, survenue donc à l'été 1906 en Iran. Cette révolution constitutionnelle, comme le nom l'indique, marque l'adoption d'un régime constitutionnel en Iran. De grands débats très vifs ont eu lieu à propos de la légitimité du principe même de constitution au sein du clergé chiite. Rappelons que le clergé chiite, à cette époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, était très présent non seulement en Iran, mais aussi dans les villes saintes irakiennes où de nombreux juristes les plus éminents du clergé chiite se trouvaient. Et ce qui est très intéressant en soi et pour les débats sur les droits de l'homme, car certains protagonistes qui aujourd'hui s'intéressent à la compatibilité des droits de l'homme et du droit musulman se placent dans la lignée des débats sur la révolution constitutionnelle iranienne de 1906. En effet, il y a eu des divisions irréductibles au sein de la hiérarchie chiite. Et ces divergences traduisent la pluralité interne, irréductible à mon avis, du clergé chiite. À propos de la légitimité de la Constitution, certains juristes chiites éminents ont considéré qu'il était possible d'intégrer la notion de Constitution dans la théologie juridico-politique du chiisme, considérant que puisque l'imam infaillible était absent, tout régime étatique serait par nature imparfait. Autrement dit, une constitution permettrait, selon le plus éminent théoricien d'entre eux, qui est le Cheikh Naïni, de remédier au moins mal à l'injustice d'un régime étatique, puisque la constitution, par nature, doit limiter le pouvoir exécutif. Contrairement à cette tendance illustrée par le Cheikh Naïni et par certains des plus grands moujtahides persans d'Irak, le Cheikh Fazlollah Nouri pensait, lui, que, à jamais, selon ses termes, jusqu'à la parousie de l'imam occulté, le droit religieux, achar, la loi, avec un L majuscule, s'opposerait au principe de la Constitution, car il voyait l'antinomie irréductible à ses yeux entre le droit musulman et les principes du constitutionnalisme. Je ne suis pas juriste spécialiste, mais si l'on revient à l'histoire des débats à propos de la Déclaration universelle des droits de l'homme en France, par exemple, la question du régime et de la séparation des pouvoirs était indissociable de la question des droits des individus. Cette question ne s'est pas posée dans ces termes en Iran au moment de la révolution constitutionnelle, et c'est un point capital de l'histoire. Ceci donc signifie que même les juristes chiites qui considéraient que le constitutionnalisme était légitime et pouvait être intégré, ils n'ont pas considéré avec attention la question des droits des personnes, et notamment la question de l'égalité dans tous les domaines du droit entre les musulmans et les non-musulmans. De même, certains aspects des libertés qui sont, comme énoncé, l'un des piliers des droits de l'homme universels énoncés dans la Déclaration universelle de l'ONU de 1948, certains aspects donc de ces libertés n'ont pas été intégrés dans la constitution iranienne de 1906. Donc cette période est tout à fait capitale en elle-même parce qu'elle marque une nouveauté considérable. Dans, je dirais, c'est un signe de ce qu'on pourrait appeler l'intégration du droit iranien dans la modernité politique, dans ce sens précis que je rappelle, donc l'adoption de régimes constitutionnels. Mais vous voyez, la complexité, la particularité des débats traduit certaines conceptions du droit musulman et permet de faire le lien avec ce que nous disions auparavant sur certains principes structurants du droit. Et d'autre part, cette séquence de la révolution constitutionnelle a été extrêmement lourde de conséquences dans la pensée juridique iranienne jusqu'à aujourd'hui. La troisième période dans le droit en Iran est celle qui commence à la fin de la Première Guerre mondiale et qui va jusqu'aux années 1950. C'est une période de sécularisation, donc au sens que je défini, dans le sens donc où l'État prend en charge certaines compétences jusque-là assumées par les savants religieux chiites. Et l'un des points très importants des réformes juridiques entreprises sous Reza Shah à la fin des années 1920 et dans les années 30 consiste dans la codification du droit musulman, codification du droit civil principalement, qui est très intéressante parce qu'elle montre la dynamique entre le fond et la forme. Et pour une large part, le droit a été codifié par un comité dans lequel participaient des savants religieux chiites qui ont veillé à, je dirais, donner une forme codifiée à un droit qui restait fondamentalement musulman dans sa substance. Codification du droit civil, codification du droit pénal également. Et au moment même où ces réformes importantes sont menées, il n'y a quasiment pas de débat au sein du clergé chiite en Iran en particulier. C'est seulement plus tard, et à partir des années 50 notamment, rappelons que l'Iran, membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, avait participer à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme onusienne, donc adoptée en décembre 1948. Rappelons donc qu'au moment même, l'adoption de cette déclaration par l'État iranien ne suscite pas de débat. Et au contraire, presque, dans les années 1950, alors que la sécularisation menée par l'État iranien, parallèlement à d'autres États musulmans, comme l'État irakien notamment, qui comprend une forte communauté chiite. Dans les années 50, donc, en réponse à cette sécularisation qui s'intensifie, voulue par l'État, se fait jour une tendance dans le clergé chiite iranien notamment, tendance qui réclame d'accroître la place du droit savant musulman dans le droit étatique, alors que justement cette place tendait à être amenuisée par le fait du gouvernement. Et cette tendance que je propose de considérer comme une tendance de réaffirmation de la place du droit savant musulman, chiite en particulier, dans le droit étatique, a pour paroxysme la constitution iranienne adoptée à la suite de la révolution de 1978-1979. Cette constitution est considérée par les historiographes parmi les clercs chiites comme un moment tout à fait majeur après la révolution de 1906. En effet, la constitution adoptée à l'automne 1979 est, comme le voient certains, la consécration d'un syncrétisme du point de vue juridique, puisque non seulement les principes du constitutionnalisme sont intégrés avec la séparation des pouvoirs, mais aussi des principes chiites qui ne sont pas tous chiites de la longue durée, mais dont certains ont été révolutionnés par la théorie révolutionnaire d'un point de vue doctrinal d'abord de l'ayatollah Khomeini, la théorie de la velayat e faqih, qui signifie la guidance ou la souveraineté du savant juriste. Cette théorie donc révolutionnaire est celle selon laquelle le savant juriste chiite doit être investi de la totalité des fonctions d'autorité de l'imam. Théorie qui, il faut bien y insister, révolutionne la théologie politique chiite et le droit savant chiite. Il y a donc une dualité de principes de souveraineté interne à la Constitution. Certains législateurs, d'ailleurs, de l'Assemblée des experts de la Constitution, l'ont bien vu. Et cette dualité comporte par elle-même des tensions qui sont à l'origine des débats, en tout cas de la manière dont certains juristes chiites qui se sont intéressés aux droits de l'homme ont pensé cette question de l'accord entre le droit musulman, le droit savant musulman et le droit étatique qui intègre ce droit savant musulman et les droits de l'homme. Dès leur livre commun, Khosrow Khawar et Olivier Roy, « Comment sortir d'une révolution religieuse », parlaient de l'hétérogénéité du droit iranien. Ce terme est exact, il y a une hétérogénéité au sens étymologique du terme, puisqu'il y a une revendication d'application du droit musulman, c'est l'un des motifs majeurs de la théorie révolutionnaire de la Khomeini, donc restaurer la pleine emprise du droit musulman dans l'État et dans la société. Et dans le même temps, il y a la reconnaissance des droits de l'homme, lesquels droits de l'homme sont subordonnés, article par article y afférent, au droit islamique. Autrement dit, la dualité est expresse. Et encore une fois, cette dualité est le motif potentiel de ces débats sur les droits de l'homme et le droit musulman, qui sont des débats historiques qui jamais, comme aucun débat doctrinaux, ne sont des débats qui surgissent automatiquement, puisqu'il faut le rappeler, donc ces débats ont surgi dans les années 1990, autrement dit, pendant presque 40 ans, si l'on se part de l'adoption de la Déclaration universelle de 1948 jusqu'à la fin des années 1980, il n'y a pas eu de débat substantiel sur les droits de l'homme. Il y a deux approches principales suivant laquelle les clercs chiites iraniens, à partir du milieu des années 1990, envisagent la question des droits de l'homme et du droit musulman. Il y a l'approche qu'on pourrait appeler celle des juristes, qui est celle représentée par l'ayatollah Montazeri, qui avait été le président de l'Assemblée des experts qui avait rédigé la constitution iranienne de 1979, et le grand ayatollah Soneï. Ces deux clercs chiites, qui sont des sources d'imitation l'un et l'autre, ont suivi ce qu'on pourrait appeler l'approche des juristes, approche qui consiste en praticien du droit à envisager les préceptes, ahkam en persan, singulier hokm, les préceptes du droit savant musulman et certains principes du droit étatique iranien qui en a intégré une partie, avec ce qu'il pense être les droits de l'homme. Il y a donc une histoire de la perception des droits de l'homme par les savants religieux chiites. Ces deux juristes, l'ayatollah Montazeri et l'ayatollah Soneï, ont une approche donc de juriste et, en quelque sorte, au filtre de ce qu'ils pensent être les droits de l'homme, évalue l'accord entre les préceptes du droit musulman et les droits de l'homme. Tout en ayant une même approche, ils en dégagent des idées très différentes. Montazeri, pour la plupart, est l'apologiste du droit savant chiite dans l'état dans lequel il se trouve historiquement à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire un droit savant chiite qui a été donc en partie transposé, avec toutes les modifications que cela implique, dans le droit étatique de la République islamique d'Iran fondée en 1979. Au contraire, Sanei, qui laisse presque entièrement de côté le pilier de la liberté dans les droits de l'homme et qui s'intéresse essentiellement à l'égalité, essaie de faire tendre autant qu'il le peut les préceptes du droit musulman vers ce qu'il entend par les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité entre tous les hommes et les femmes. À la différence de cette approche juriste, il y a l'approche que l'on pourrait appeler l'approche des théologiens philosophes, incarnée une fois encore par des protagonistes ayant des vues diamétralement opposées, d'un côté donc par l'ayatollah Javadi Amoli, qui est l'apologiste de la théologie du droit savant musulman et du droit étatique iranien, et qui, sans aucun souci de complaisance, rappelle l'incompatibilité structurelle entre le droit savant musulman fondé sur les principes structurants évoqués plus haut et les droits de l'homme fondés donc sur le droit subjectif, naturel. À l'encontre de l'ayatollah Javadi Amoli, le cher Kadivar fait un bilan avec un souci d'universalité et de rigueur exemplaire, bilan donc de l'héritage juridique chiite, héritage dont il voit l'historicité, de même que les principes structurants dans la longue durée. Il en conclut à l'idée que, en l'état, le droit musulman, qu'il appelle le droit historique, ou l'islam historique, islam et tarihi dans ces termes, est en désaccord avec les droits de l'homme énoncés dans la charte de l'ONU qu'il prend en considération, et que si l'on veut faire converger le droit musulman en l'état actuel vers les droits de l'homme universels, il faut métamorphoser l'islam en islam spirituel, islam et manavi dans sa terminologie. Enfin, le théologien qui est expressément et fondamentalement théologien, Shabestari, quoique il soit, comme son nom l'indique aussi, mojtahed, donc il a toutes les compétences de juriste, Shabestari a une approche fondamentalement philosophique du droit. Il met en comparaison le droit musulman chiite, mais plus largement le droit musulman dans son architecture philosophique et juridique, et les droits des pays qui sont fondés sur les droits de l'homme universels. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit encore la pluralité, le dynamisme et aussi la grande ironie au sens positif de ces auteurs, c'est que l'ayatollah Shabestari, qui a été un condisciple et qui est un exact contemporain de l'ayatollah Javadi Amoli, ils ont 2 ans d'écart, ils ont été formés par les mêmes maîtres, l'ayatollah Javadi Amoli est raillé par son ancien condisciple Shabestari, qui lui dit que les droits de l'homme sont certes en contradiction avec le droit musulman tel qu'il est prononcé en l'état actuel, mais qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir à cet état, et qu'il est possible et même souhaitable, recommandable, de transformer le droit musulman pour qu'il soit conforme au droit universel de l'homme.